regarde le monde stagné. Non, pas le monde stagné, sauf les interviews de Sonia Mabrouk. Là, là on n'est pas sur du lissage brésilien. Avec Sonia, ça, ça décoiffe, je vous dire. Ah oui, là, Jacques Lang, une interview comme ça. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu des interviews comme ça qui décoiffent autant. Jacques Lang, il est reparti tout décoiffé. Ça, ça a soufflé fort sur son brushing. Elle l'a pris par le colmao. Et c'est pas facile à saisir, pourtant, un colmao. Bravo, bravo Sonia. On est fiers de Sonia Mabrouk. Bref, je disais, le regard du monde stagné. Car c'est la même actu, il faut bien le dire, Julie, depuis un an. Heureusement qu'il y a des variantes du virus qui sortent. Oui, car l'info du jour, c'est l'apparition inquiétante du variant sud-africain au coronavirus. Après le variant anglais, voilà le variant sud-africain. Il y aurait même un variant brésilien. Ça devient vraiment, faut le dire, ça devient vraiment l'Eurovision du virus, cette épidémie. Il ne reste plus qu'à espérer qu'on ait aussi un variant français. Et oui, ce serait chouette un variant français, parce qu'avec un peu de chance, il se mettra en grève tout de suite. Allez. Oui, les clichés, je sais. Ah, allez, l'autre info. L'autre info, c'est qu'aujourd'hui, le guide Michelin, on en a parlé, parce qu'on a reçu le directeur du guide Michelin. Mm-hmm. Oui, l'autre info, c'est que le guide Michelin décerne ses étoiles aux meilleurs restaurants, alors que tous les restaurants, on le sait, sont fermés. Il devrait donc donner une étoile à McDo pour son McBaguette et deux étoiles à KFC pour son fameux Bucket. Voilà. Ah ben, je peux vous dire qu'elle est belle, la gastronomie française cette année. Allez, à vous Julie.
Merci Mathieu. Toute la presse en parlait ce week-end. Il semble ne plus avoir de doute autour de la candidature d'Arnaud Montebourg pour 2022. Bonjour Monsieur Montebourg.
Oh, salut la Julie, salut le Béliard, salut le Jimmy, salut le Cabrol. Là, je dis pas salut au Vandel. Vandel doit finaliser alors qu'il est son brushing, son lissage brésilien dans les gris blancs, gris bleus. Allez, je suis dans les starting blocks. Voilà. Allez, prêt à bondir le nono.
Alors, la presse nous dit que vous avez une ligne politique assez proche de celle de Jean-Pierre Chevènement.
Voilà. Mmh. Voilà, Chevènement, exactement. C'est ma ligne politique pour être un winner en 2022.
Un winner, vous voulez dire? Un winner.
Oui, oh, winner, écoute, tu peux faire les Made in France, s'il te plaît, ma Juju.
Alors, rappelez-nous combien de présidentielles il a gagné, Jean-Pierre Chevènement.
Mmh. Hey! Ah merde. Ah oui, t'es en train de suggérer de façon assez subtile et élégante que je vais encore me bananer, ma Juju.
Ah, bah oui, disons que Jean-Pierre Chevènement n'avait jamais assez de voix pour être élu président, mais qu'il en prenait assez à gauche pour faire perdre le Parti Socialiste.
Oui, c'est ce qu'on appelle un ticket perdant-perdant. Et finalement, ça colle assez bien, ça ressemble assez bien à ma carrière politique, finalement.
Et puis, écoutez cette info-là, on voulait vous en parler, des milliers de boîtes de crème glacée positive au Covid en Chine. Alors, comme vous avez lancé votre marque de glace La Mémère, on pensait que vous étiez un peu concerné.
Ah, merde, du coup, faut que je vérifie si ma mémère n'a pas le Covid. Non, déjà, je n'ai pas beaucoup de pognon pour tout dire dans cette histoire. Si en plus, il faut que j'aille faire tester tous mes pots de glace, on va pas s'en sortir. Ah oui, non, mais financièrement, on va pas s'en sortir. Remarque, attends. Non, parce que je pense à un truc. Oui. Si le virus, ma Juju, il tient dans la glace à cause du froid, ça veut dire que le vaccin aussi, logiquement. Et oui, par la transitivité de la relation. Donc, je peux peut-être lancer des pots de glace, la mémère, goût, fraise vaccin. Tu vois le truc? Ou pistache Pfizer, ou alors chocolat Moderna. Oh putain, je te laisse, je crois que j'ai encore flairé un bon coup. Là.
Attends,
je te laisse. J'ai un super business là.
Oh là. Bonne chance, monsieur Montebourg, et à bientôt. Emmanuel Macron a eu Joe Biden au téléphone. Ça se passe bien, on dirait, entre les deux hommes. Joe Biden a mis en avant ses origines soi-disant françaises, même si elles ne sont pas très sûres, hein, on n'est pas très certain. Bonjour, monsieur le président.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, mais déjà, Joe Biden se rappelle qu'il s'appelle Joe Biden.
Vous savez,
vous verrez. Quoi? Vous passez un certain âge, se rappeler son nom et son prénom, c'est déjà un exploit.
Oh là là là, bon. Là. Et puis, cette info, l'ancêtre de Joe Biden a connu Lafayette.
Hmm? Non, Joe Biden. Non. Non. Joe Biden a connu Lafayette. Non, mais pas le. Julie.
Quoi?
Oh, punaise. Pas le directeur des galeries, je précise.
Mais... Oh, merci.
Non, il faut dire une chose. Il faut dire à vos auditeurs que Julie n'est pas aussi férue d'histoire que mon Stéphane Bern. Ouais. Julie, je sais que vous connaissez très bien Lafayette Gourmet, Lafayette homme-femme, mais à l'origine, c'est le nom d'un officier français américain.
Oh, oui, on sait. Et on s'en fiche. Allez, hop. Ah. Parlons de
la. Même le coup du Mabrouk. Rentre dedans, hein.
Alors, parlons de l'actu. On va faire une pénurie de vaccins, il paraît.
Oui, tout à fait. Mais de mémoire, les Français, vous n'étiez pas, je m'adresse aux
Français,
aux en Français. C'est bien, vous suivez, Monsieur Béliard. Vous êtes les Français, vous êtes contre la vaccination, hein, Docteur Mohamed. Vous confirmez que ces bourrins de Français étaient réfractaires.
Oui, mais ils ont changé.
Ils n'osent pas le dire là. Oui.
Non, mais ils ont changé d'avis, les Français. Ils sont pour maintenant.
Mais vous êtes extraordinaire.
Quoi?
Non, mais c'est fou, un peuple de girouettes en plein Mistral. Non, mais c'est fou. Ah, mais je voulais pas de vaccin, mais maintenant j'y réfléchis, je veux bien.
Bah, ils sont même d'accord pour le passeport vaccinal, les dents.
Non, mais il faut vraiment vous suivre, hein, vous les Français. Non, mais maintenant, vous voulez être fichés, c'est ça? Non, mais c'est n'importe quoi. Mais vous avez quel âge, les Français? Mais grandissez un peu, merde. C'est de votre faute, moi. J'en ai pas commandé des vaccins. Du coup, faudra attendre. Moi, je n'ai pas commandé, je n'ai pas de faire vacciner.
Et vous êtes le chef de l'État.
Comment elle me parle, la blondasse?
Vous devez gérer en bon père de famille. C'est à vous de prévoir. Vous ne pouvez pas utiliser les hésitations des Français pour excuser. C'est vos retards.
Les hésitations, c'est vous qui parlez des hésitations. Merci. Julie, pardonnez-moi, je me suis
consulté.
Je ne suis pas totalement idiot. Je vous le dis à vous parce que vous m'êtes sympathique. C'est un vieux stratagème en communication. Quand vous êtes en tort, vous gueulez le premier. Voilà. Et du coup, ça fait culpabiliser l'autre. Si vous le jouez à donf, ben l'autre peut croire qu'il a tort.
On avait compris. On va vous laisser, je crois. Hein. Merci, Monsieur le Président.
Non, ça marche.
Aura-t-on assez de vaccins? Jean Castex, le Premier ministre, va répondre. Il est avec nous.
Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard, bonjour à papy et à mamie qui ne voulaient pas de vaccin au début et qui en veulent maintenant qu'on n'en a plus. Papy et mamie, ils commencent à nous les briser menu. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons pensé à tout.
C'est-à-dire?
Eh bien, Madame Julie, et s'il y a pénurie, nous avons déjà pensé à tout. Nous attribuerons les vaccins restants et avec un système informatisé, piloté par un professionnel qui a 40 ans de métier. Et il est avec moi. Monsieur, je vous en prie, testons votre matériel pour que Madame Julie comprenne ce qui se passerait.
Bonsoir à tous, c'est Jean-Pierre Foucault. Merci, monsieur le Premier ministre, monsieur Jean Castex. Et oui, pour savoir qui aura droit aux dernières doses de vaccin, c'est notre ordinateur qui décidera désormais. Un choix totalement au hasard, réalisé sous contrôle d'un huissier, bien sûr, spécialisé en médecine pifométrique. Attention pour la médecine pifométrique, top ordinateur.
Alors.
Eh bien, c'est l'Indre-et-Loire, qui aura les dernières doses de vaccin. Bon courage aux autres. On espère que je ne mourrai pas entre-temps. À vous, monsieur le Premier ministre, à vous, Jean Castex.
Voilà. Merci, monsieur Foucault. Merci, madame Julie. Écoutez, s'il y a pénurie, tout est déjà pensé, vous le voyez, pour les vaccins. Bienvenue
sur Europe 1. Enfin, l'info du jour, c'est Olivier Véran, l'homme au masque et Lacoste, qui a annoncé aux personnes âgées de plus de 75 ans qu'il faudra attendre un peu pour se faire vacciner, vous avez compris. Du coup, on comprend mieux la stratégie du gouvernement. Plus on fait patienter, en effet, les vieux, moins il y en aura, au final, à vacciner.
C'est ça, quel calcul, vraiment.
C'est bien trouvé, et n'empêche. Bon, enfin, bref. L'autre info, c'est toujours le gouvernement qui tente d'aider les étudiants en détresse à cause de l'absence de cours. Et c'est pas étonnant. C'est vrai qu'il n'y a plus d'avenir radieux aujourd'hui. Tu sais que si tu fais Sciences Po ou l'ENA, ben, tu deviens quoi? Tu vas devenir Jean Castex. Donc ça peut donner envie de sauter par la tête. On comprend les jeunes. Et puis, l'info qu'on ne voulait pas, c'est Jean-Pierre Bacri qui nous a quittés à l'âge de 69 ans. Un air de famille, cuisine et dépendance Didier, le goût des autres, le sens de la fête, j'en passe, et des meilleurs, c'était le temps des comédies drôles. Et c'est rare les comédies drôles. Drôles et intelligentes. Il était l'éternel râleur, le bougon magnifique, le chieur sublime, bref, la France, quoi. Il était la France. Et cette info me donne envie de faire encore plus la gueule que Bacri dans toute sa filmographie réunie. Allez, c'est dur.
C'est quoi ça?
Non, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, Julie, vous pouvez fermer la porte du studio, on entend le sèche-cheveux de Philippe Vandel qui finit son brushing avant de
vous rejoindre. Bon, allez, je vais fermer la porte alors. L'interview de Jack Lang par Sonia Mabrouk hier a beaucoup fait parler. Interrogé pour savoir si les rumeurs autour des crimes d'Olivier Duhamel lui étaient arrivées aux oreilles, Jack Lang a répondu « Je ne fréquente pas ces milieux, je ne participe pas à des mondanités. »
« Je ne participe pas à des mondanités. » Oui, bonjour, cher Julie, c'est Nelson Montfort, bonjour. En direct de l'Institut du Monde Arabe, qui est, vous le savez, dirigé par Jack Lang. Jack Lang qui vient de remporter le championnat national de prenage de gens pour des cons avec ce programme libre intitulé « Jack Lang, l'ennemi des non-mondanités ». Il a remporté, tenez-vous bien, un 9,98 à l'épreuve du foutage de gueule sur 3 minutes.
Ouais, c'est vrai qu'on a un peu tiqué en entendant ça.
Oui, Jack Lang, bien sûr, nous savons, c'est l'homme qui préfère un petit plateau télé devant Thalassa plutôt que d'aller à l'inauguration d'une galerie d'art. Jack Lang, c'est quoi ? C'est les barbecues avec Monique en claquette, un Bob Ricard et une Cronenbourg en écoutant les réchansons. Jack Lang, célèbre pour ses week-ends en solo sur les bords de Marne avec un siège pliant, un petit chapeau et une canne à pêche. C'est bien simple.
On l'imagine.
À Paris, pendant 40 ans, on s'est demandé qui était ce provincial solitaire qui semblait s'ennuyer au ministère de la Culture.
Oui, bon, allez, Nelson, ça va, on a compris. Oh là là.
Mais voilà que Jack Lang sort de l'Institut du Monde Arabe. Jack, s'il vous plaît, Jack, tenez votre trophée pas. Votre trophée, je vous le remets pour votre prestation d'hier.
Non, voilà. Écoutez, ça suffit, allons. Je ne savais rien, je vous dis, pour Olivier Duhamel. Je n'ai aucune complaisance avec tout cela. Ce n'est pas parce que j'ai fréquenté Olivier Duhamel, défendu Polanski, défendu Woody Allen, trouvé, Jeffrey Epstein, charmant, ou signé une pétition pour décriminaliser la pédophilie, qu'on peut me soupçonner de la moindre complaisance avec toute forme d'agression sexuelle. Allons, basta.
Il est fort, formidable, très vraiment. C'est là qu'on reconnaît des grands champions. Qui pourra surpasser ce niveau de foutage de gueule? La barre est très haute, ma chère Julie, et bon courage à Sonia pour les suivants.
Merci Nelson. Jean Castex était l'invité de C'est à vous, présenté par Anne-Elisabeth Lemoine. Bonjour Monsieur le Premier Ministre.
Oui,
c'est la première. Bonjour, c'est la première fois qu'on vous voit dans ce genre d'émission.
Eh bien oui, voilà, je suis péopile, pardon, merci de m'aider, people. Je suis un people,
repeat
un
after
people,
me.
Tout à fait, et voilà, et people, très, très sympathique, cette Anne-Elisabeth Lemoine, et je me retrouve en elle, parce que quand elle a pris la tête de l'émission, tout le monde a dit, oui, elle est nulle, elle va jamais y arriver, et au final, elle est super. Et moi, quand j'ai remplacé Edouard Philippe, tout le monde a dit, oui, il est nul, il ne va jamais y arriver, au final. Et ça prend un peu plus de temps avant de me trouver super. Voilà.
Alors justement, vous avez dit, nous sommes des diesels.
Voilà, nous sommes en route. On fonce vers le succès, mais lentement. Et sur les chemins, nous allons lentement sur les chemins de la vaccination à toute allure, tel le pilote Sébastien Loeb au Dakar.
Sébastien Loeb, il a perdu deux fois dans le désert et il a 2 heures de retard sur les meilleurs.
Voilà, c'est ce que je vous dis à l'instant, madame Julie. Et on est Sébastien Loeb, paumé et en retard.
Alors, les candidats au vaccin doivent remplir un questionnaire type avec cette question. Êtes-vous enceinte? Non, mais est-ce que c'est indispensable pour les plus de 75 ans, enfin?
Oui, Roche, voilà, et votre esprit. Non, on n'a quand même pas posé la question, êtes-vous enceinte au papy? Et on est couillons, mais qu'à moitié. C'est la bonne nouvelle.
Eh ben, on est rassuré.
Parce que c'est celle qu'il faut souligner.
Très rassuré. Merci Jean Castex. Yeah. Joe Biden entrera officiellement à la Maison-Blanche demain, mais on a appris ce week-end qu'il avait déjà appelé le président Macron. Une conversation qui a duré 10 minutes environ, et on l'a en exclusivité. Écoutez.
Hello, Mr. President. Bonjour, bonjour à tout et à vous. Ravi de vous parler au téléphone, cher Joe.
Tout est à vous.
Bon.
Non, je dis ravi de vous parler au téléphone, cher Joe.
Merci, Monsieur Mitterrand.
Mitterrand.
Non, Macron. Macron, alors dites-moi, cher Joe, maintenant que Donald va se barrer, on va pouvoir enfin travailler main dans la main et régler cette histoire de taxes pour les GAFA.
Comment?
Non, je dis, il faut payer des taxes.
On va faire un pax. Pourquoi vous n'êtes pas marié avec Brigitte?
Non, 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 je parle des impôts que Trump ne voulait pas nous payer pour Google.
Ouais, vous avez raison, Trump était un Google.
Non, Google, oh là Google, là. On a les taxes en France.
Oui, bien sûr, j'ai pris les taxis en France, je suis à la Moulin Rouge, à Tour Eiffel. J'adore la France.
Oh là là.
Oui, bon, ok, il m'a saoulé, c'est bon, allez, on se reparle plus tard.
Oui, bye bye, Monsieur Girac.
Oula, c'est pas gagné. Hein. Merci à tous les deux. Jean-Pierre Bacri nous a donc quitté, mais comme la radio, c'est parfois un petit peu magique. Nous sommes en liaison avec le paradis. Jean-Pierre?
Ouais. Allô?
Oui.
Tiens, c'est quoi cet écho de merde, là? Ouais, c'est ça, salut Julie, c'est Mathieu. Oui, oui, je suis bien arrivé, c'est gentil, merci. Ça me saoule déjà, par contre, on s'emmerde ici. Il y a des gens chiants, là, tout propre, là, avec des espèces de toges blanches, là, la con, là, qui jouent de la harpe. En plus, je déteste la harpe, ces instruments à cordes à la con, tu peux même pas rentrer dans une valise, là, c'est... En même temps, sur Terre, c'est vrai que c'était pas mieux. Avec ces putains de virus partout, là, des problèmes factures, des cons en voiture, voilà. Je suis désolé de vous avoir laissé, vous, sur Terre, avec toute cette merde, là, mais... Ah putain, en ce moment, c'est vrai que vous vivez pas des vraies bonnes journées, hein, on va pas se mentir.
C'est sûr que c'est pénible, hein, ces derniers temps, on en a marre, oh là là.
Et voilà, vous en avez marre, voilà. Et quelque part, je suis content de voir que vous perpétuez un peu mon héritage. C'est moi qui suis parti, et finalement, c'est vous qui râlez. Et quelque part, tant que vous râlerez, je serai toujours un peu là avec vous.
C'est Mathieu Béliard, le petit prince de l'info.
Et aussi, carrément.
Oui, carrément, j'aime bien m'auto-satisfaire. Et puis également, vous avez ce matin au micro le concurrent de Cyril Lignac ce matin. Je vous ai donné, vous l'avez entendu, ma célèbre recette de hareng au pain grillé. Alors, prenez note, vous prenez du hareng, du pain grillé, et voilà, c'est prêt.
Alors,
allez, passons.
Attendez, j'ai pas eu le temps de noter.
C'était de la morue, mais...
Oui, ça fait aussi morue au pain grillé. J'en ai plein au pain grillé, des comme ça. Passons à l'info. Allez, l'info du jour. C'est Olivier Véran qui déclare qu'il y aurait déjà un effet couvre-feu. L'effet apéro, on en a parlé, l'effet confinement, l'effet couvre-feu. Ils aiment bien nous parler des effets trucs ou d'effets machin au gouvernement. En revanche, ils n'ont toujours rien dit, vous l'avez noté, sur l'effet « on en a ras le cul ». Ou l'effet « on veut se prendre une caisse avec des copains au resto ». Alors que c'est cela, ces effets-là qui nous intéressent le plus quand même. Oui, excusez-moi, mais c'est bien beau la résilience à la Boris Cyrulnik, mais là je craque un peu. Et puis, Europe One était à l'heure américaine ce matin. « Look at the monde changé ». Regarde le monde changé, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais. L'info américaine, c'est... Eh oui, vous avez compris, c'est l'investiture de Joe Biden qui devient aujourd'hui locataire de la Maison Blanche. C'est plutôt bien joué, c'est plutôt malin de s'installer dans un plus grand logement avant le prochain confinement. L'autre info américaine, c'est Joe Biden. Joe Biden qui est déterminé à réparer très vite les dégâts de Donald Trump. Nous l'avons dit dans cette édition. Comme la politique anti-musulman, comme le réparer les bêtises, comme le mur anti-mexicain, les miettes de M&M's et les taches de ketchup sur le tapis du bureau ovale. C'est fou, toutes ces tâches de sur les tapis du bureau ovale. Les présidents américains ont l'habitude de faire des tâches. J'ai pas dit, j'ai juste sous-entendu pour les auditeurs qu'il y a une vraie culture américaine de tous les présidents américains qui se sont succédés.
On a tous compris. Allez, merci Mathieu. Jean Castex a été moqué sur Internet pour son hommage à Jean-Pierre Bacri. Bonjour Monsieur le Président.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il a encore dit une connerie?
Bonjour. Il a dit « je suis triste » et en même temps, je pense qu'il n'aimerait pas qu'on soit triste. The show must go on.
Oui, bon, mais ça va, c'est pas une grosse connerie, non. Il en a dit des pires, franchement. Il en a fait aussi, d'ailleurs. Il en a pensé aussi. Il en a écrit dans des discours. Il en a dicté même un
discours. Oui, bon, c'est bon, on a compris.
Et là, ça va.
Attendez, parce qu'il a ajouté, c'est un acteur et un râleur, comme le peuple français, qui râle et qui est impatient.
Ah, il a dit ça.
Alors ça commence plus
à se rapprocher de la connerie. Là, je reconnais mon Jeannot. Très bien, Jeannot. C'est bien de traiter les Français de râleurs impatients alors qu'ils attendent des vaccins qui n'existent pas.
Hein, voilà,
on veut des vaccins. Oh, ça va. Oui, ça va. Arrêtez de râler, bande d'impatients. Bacri n'est plus là, mais pour la comédie, rassurez-vous, cher. Mes concitoyens, chers compatriotes, on a toujours Jean Castex.
C'est sympa. Alors, vous avez poussé un nouveau coup de gueule. Hein. Vous n'autorisez plus que trois de vos ministres à parler de vaccination. Et vous avez déclaré, si j'en entends un autre en parler dans les médias, je suis à sa disposition pour recevoir sa lettre de démission. Ça rigole pas. Hein.
Oh. Oui, vous savez, cher Julie Leclerc, autoriser trois ministres à parler de vaccination, c'est déjà accepter l'idée que trois conneries seront dites. Je ne parle pas de la quatrième version de Monsieur Mohamed, mais c'est déjà largement assez comme ça. Mais rassurez-vous, mes ministres ont le droit de dire des conneries sur tous les autres sujets, comme d'hab. Ça continue.
Rassuré. Bon courage à vous, en tout cas. Hein. Édouard Balladur était cette semaine devant la Cour de justice de la République en compagnie de François Léotard. Bonjour, Édouard Balladur.
Oui, bonjour.
On parle d'un financement occulte de votre campagne de 95.
Il y a, Madame Leclerc, un vrai problème avec la justice française.
Bah lequel ?
La justice française.
Lequel ?
Ça va beaucoup trop vite. Écoutez, c'était il y a 25 ans. Aujourd'hui, 91 ans, vous l'aurez noté, vous l'avez dit et redit dans vos éditions matinales. On retardait le procès de 10 ou 15 ans et j'étais peinard.
Non,
ça va beaucoup trop vite, je vous le confirme.
Nicolas Sarkozy est là aussi ce matin. Bonjour, monsieur Sarkozy.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes très proche d'Edouard Balladur, vous, on le sait. Hein.
Oui, enfin, oui et non, hein, pas tant que ça. Hein? Enfin, de moins en moins depuis le procès. Mais franchement, quelle intimitude, Mme Pyjamas.
Ah, celle-là, je l'aime bien.
S'acharner. Pourquoi les autres, vous aimez pas?
Si.
Alors on s'échine à écrire des choses, des wagons, des drôleries, et de vous c'est une acune, c'est pas un pyjama. Je veux dire, même caleçon, c'est ça qui vous plaît.
Non, mais bien, franchement. Pyjama, c'était bien. Allez, on y va.
Ah oui, si, vous l'avez comprise. Alors, non mais franchement, s'acharner contre deux petits vieux, Édouard Balladur, 91 ans, François Léotard, à peine remis du décès de son frère en 2001,
oui, bon.
78 ans, 169 ans à eux deux. Non mais 160, on peut pas les laisser tranquilles, franchement, à 169 ans. Parce que ça, pour emmerder nos croulants, il y a du monde, mais pour leur trouver deux vaccins, ça, il y a plus personne. Hein. Oui, que je vous dise, la justice va plus vite que la médecine en France. Voilà, ça c'est ma phrase.
Phrase du jour. Oui.
J'ai quand même des bons restes de ma carrière d'avocat, vous trouvez pas?
Ah oui, vraiment. Écoutez, ça tombe bien. C'est le même procès qui vous attend, hein, Monsieur Sarkozy. Bonne chance.
C'est pas moi, c'est Madame Pyjamas.
On vient de l'apprendre, le parc de Disneyland Paris restera fermé au moins jusqu'au 2 avril. Bonjour Bruno Le Maire.
La, 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 la. Oui, bonjour les enfants, c'est Bruno, en direct de Chômageland.
Alors, beaucoup de gens sur Internet scrutent l'ouverture de Disneyland, car la rumeur dit qu'ils ont, avant tout le monde, les dates du déconfinement. Ça veut dire qu'on va être confiné jusqu'au 2 avril minimum ?
Non. Écoutez, tout ceci, ce sont des fake news, des rumeurs que l'on trouve sur Internet. Mais oui, mais peut-être que grâce à la vaccine... Grâce aux mots que je n'ai pas le droit de dire, sinon je dois donner ma démission, on va pouvoir peut-être déconfiner beaucoup plus tôt.
Alors, jusqu'à présent, le parc ne s'est jamais trompé. Hein, et on peut se dire qu'il a tellement d'argent, en jeu qu'ils ont des informations qu'on n'a pas chez Disney.
Écoutez, franchement, si on en est arrivé à attendre les décisions de Mickey plus que celles de Jean Castex, c'est que la France va vraiment mal, Mme Julie.
Donc, pas de confinement jusqu'au 2 avril.
Bah, le problème, c'est qu'en tant que ministre de l'économie, j'ai les chiffres. Ah. Et que la France va vraiment mal. Donc peut-être qu'il faut plus croire Mickey que Jean Castex, finalement.
Bon, écoutez, merci. Merci Bruno Le Maire. Le laboratoire Sanofi a annoncé la suppression de 300 ou 400 postes en recherche et développement.
Ah,
oh, tiens, Angela.
Ah, c'est tellement... Ah, vous savez nous détendre, vous, les Français. Ah, on peut compter sur vous, la période est morose. Mais vous êtes toujours disponible pour nous faire rigoler. C'est trop gentil de votre part.
Angela Merkel, bonjour. Alors, Sanofi déclare que ce plan de départ était annoncé depuis longtemps.
C'est encore mieux, alors. C'est votre laboratoire, c'est le seul au monde qui n'arrive pas à faire son vaccin. Et en plus, vous virez les chercheurs. C'est sens du timing. Vous êtes les derniers et vous virez des chercheurs pour faire des économies. Je comprends. Ah, quitte à être dernier, autant que ça coûte pas cher.
Oui, ben c'est bon, allez.
Je m'en tape la cellulite.
Oh non.
Ah, ça fait des vaguelettes de gras.
Oh non, c'est dégoûtant. Bon, depuis... Mais, depuis, le reste du personnel est en grève.
Ah, vous en virez la moitié et l'autre moitié, elle est en grève. Oh mon Dieu, je vais faire une crise cardiaque tellement j'ai rigolé.
Non, calmez-vous.
C'est tellement français. Heureusement que nous, avec Pfizer, on est là pour vous fournir vos médicaments. Parce que si votre Sanofi, avait essayé d'inventer le Viagra, imaginez le résultat. Aujourd'hui, vous auriez Dominique Strauss-Kahn comme président. Il n'aurait jamais eu tous ces problèmes avec un médicament français.
Oh là là.
Humour de Stuttgart.
Oui, humour de Stuttgart. Merci Angela Merkel. Bon, on a bien rigolé avec vous. Le variant anglais se répand de plus en plus, de même que les variants brésiliens, sud-africains, japonais. On s'y perd un petit peu dans tous ces variants, hein.
Oh oui, oh ma chère Julie, on s'y perd. À mon avis, il doit y avoir anguille sous roche. Bonjour mon cher Mathieu, bonjour à tous. C'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver dans tous ces variants. Bah, c'est pourquoi j'ai décidé de proposer à nos auditeurs, vos auditeurs d'Europe 1, le grand concours de l'Eurovariant.
L'Eurovariant.
Oui, c'est comme l'Eurovision, mais avec des variants. Bah, allez, écoute, musique.
On y va.
Bonjour et bienvenue à cette grande compétition de l'Eurovariant. Quel pays va avoir le meilleur virus? Les candidats se pressent jour après jour. Tenez, j'aperçois la délégation britannique avec le variant anglais. Fièvre modérée, toux sèche et surtout extrêmement contagieux. Il n'occasionne pas de perte de goût, non. Le goût empire au contraire, carrément, car ceux qui le contractent se mettent à manger du plum pudding ou de la jelly. Oh, le variant japonais là. Il est là, le variant japonais, un virus tout en sobriété. On écoute le virus japonais.
Oh là là.
Oui, fantastique, on entend bien les glaires rouler en contrepoint de l'atout. On annonce les résultats, attention. France, 5 malades. Allemagne, 12 malades. Russia, 20 malades. Oh là là, ça part bien. Mais voici que s'avance le variant sud-africain, un variant dont on dit qu'il va nous couper le souffle. On écoute tout de suite le variant sud-africain.
Oula.
Ah oui, carrément. Oui, là, on sent qu'il est dangereux, le canaillou. En tout cas, vous le voyez, la compétition est serrée. À vous, Julie, à vous, Mathieu. Bienvenue sur Europe 1. Si vous venez de nous rejoindre, l'actualité, l'info du jour, c'est le monde entier qui s'interroge. Que signifie cette phrase de Donald Trump? D'une manière ou d'une autre, je reviendrai. Eh bien, accrochez-vous bien, il se pourrait que ça signifie qu'il compte revenir. Et oui, je sais l'analyser. En bluff plus d'un, en particulier Laurent, mais dès que vous hésitez la prochaine fois, demandez-moi. Eh oui, il revient ou il ne revient pas, il ne peut pas faire les deux. Les deux, mon général. Oh oui, ma chérie, tout ça pour ça. Oui,
ma Julie. À 7h25 avant.
Oui, mon Mathieu, oui, j'ai parlé de cette expression, les deux, mon général. C'est ma formule ce matin. Vous avez aimé ma blague? Avec le type qui fait son service militaire, il doit répondre les deux à la question générale. Et le général lui dit, vous me prenez pour un abruti ou un crétin? Et l'autre de répondre, les deux, mon général.
On est mort de rire.
Ah, c'est super ce matin. On s'accorde des blagues.
blague des bidasses en folie.
Attendez, mais ça vous plaît? Oui, j'en ai une autre. Vous savez ce qui n'est pas un steak? Une pastèque.
Oh non,
je me ris dessus. Oh, une autre. Oh, puisque ça plaît. Vous savez comment on ramasse la papaye? Non. Avec une foufourche.
Attendez,
j'en ai sympa. L'histoire d'un aveugle qui rentre dans un bar, puis dans une table, puis dans une chaise. Ça vous plaît aussi?
J'en ai une super. Rire, là.
Alors attendez, c'est un Américain, un rabbin et une pute qui sont dans un ascenseur. Et là.
Qu'est-ce que vous en avez,
François? Oui, merci Stéphane. Et oui, merci. Demain, je vous ferai l'expression l'humour à deux balles. D'où vient cette expression? Oui, merci Stéphane. Et puis l'actualité, c'est aussi ce chiffre étonnant. Le taux de natalité est le plus bas en France depuis 1945. Et ça, c'est une info.
Oui, bonjour. C'est une info, vous avez raison. Bonjour, c'est Dominique Clormantique. Toutefois, cher Mathieu Bizière, je suis Claire Gabol. Aujourd'hui, ce n'est pas le spécialiste de l'amour courtois qui vous parle. Non, c'est l'économiste. Car une natalité faible, c'est une croissance en berne, n'en doutons pas. Or, nous avons déjà la pandémie qui nous frappe économiquement. Comment régler ces deux problèmes? Eh bien, j'appelle le laboratoire Pfizer à mettre dans chaque dose de vaccin, oui, une dose de Viagra. Minime, mais il faut une dose. C'est ainsi que l'on paiera les retraites de nos petits.
C'est ça, oui.
Merci, monsieur Strauss-Kahn, pour ce conseil économique et scientifique, quelque part. Et puis l'autre info, quelque part, c'est. Eh oui, c'est l'économie quantique, quelque part. Et puis, l'autre info, ce sont ces 73 experts français qui recommandent de donner, tenez-vous bien, de la vitamine D. Tout simplement de la vitamine D. Et ça, Jimmy Mohamed nous en avait pas encore parlé, mais peut-être ce sera la chronique de demain. La vitamine D à la population pour protéger du coronavirus.
Mm-hmm. Ouais, salut July. Salut Mathieu, salut les loups.
Nikos.
Oui, c'est moi. Salut ma Julie, tu m'as reconnu. Oui, c'est Nikos. Nikos, la vitamine D fait Tom. Vous connaissez mon énergie, mon dynamisme chargé de soleil grec. Oui, je suis orange, ça se voit à l'image, je suis effervescent. Je transpire de la vitamine D et je synthétise des anticorps. Alors, si vous voulez être protégé, je vous propose, dès demain, de vous postillonner dessus. Vous mettez en face de moi, tu connais ça, Julie, on a fait une saison ensemble. Vous mettez en face de moi et je vous parle fort, face au visage pendant 3 minutes. Oui, mais vous ricanez, Julie, mais en attendant, il n'y a pas un malade dans les candidats The Voice. Pas un seul malade, ouais, c'est ça.
C'est QFD, bravo Nikos, allez. Joe Biden est désormais président des États-Unis. Donald Trump a quitté la Maison-Blanche hier. Bonjour Jean-Michel Apathy.
Et bonjour ma chère Julie, bonjour à mon collègue rouleur de verre Mathieu Béliard, Paul Lasserre, tout le monde est là. Ça y est, c'est fait. Joe Biden est désormais président des États-Unis d'Amérique. Joe Biden, qui était accompagné, vous l'avez noté, de Lady Gaga, vous avez vu, pendant que Donald Trump, lui, était accompagné d'une dizaine de supporters avec des casquettes Make America Great Again. C'est quoi les initiales? C'est MAGA.
Donc, MAGA. Ah oui, MAGA, ouais.
Voilà, qu'on a donc baptisé Lady MAGA. Lady MAGA, c'est un acronyme.
Lady Gaga, oh là 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 là.
Oui, demain, je vous ai parlé de l'humour carambar. D'où vient cette expression?
Bon, là, hein, le MAGA, Lady MAGA, et bon. Alors, Washington était protégé par un impressionnant dispositif militaire. Du coup, il n'y a eu aucun incident majeur.
C'est vrai, on est resté un peu frustré sur notre. On est un peu resté sur notre fin. Après l'envahissement du Capitole, c'est vrai que les scénaristes, il faut bien le reconnaître, mais ils ont été fainéants. Ils se sont reposés sur la présence de Lady Gaga et de Jennifer Lopez. Ça fait un joli casting, mais pas beaucoup d'action.
Alors, Joe Biden a annoncé le retour des États-Unis dans l'accord de Paris, la fin du Muslim Ban, la fin de la construction du mur avec le Mexique, la lutte contre le coronavirus. Voilà, il a son programme.
Et oui, Joe Biden a le métier le plus facile du monde. J'en parlais avec Dominique Simonin, un camarade de journaliste. Il a juste à regarder ce que fait Trump
Et il fait tout l'inverse, tout simplement. Et hop, et on ne se foule pas. Trump ne voulait pas des masques, Biden va en mettre. Trump construisait un mur avec le Mexique, Biden va le détruire ou arrêter. Trump a fini son mandat très impopulaire, Biden va mourir avant de finir le sien. Mais tout le monde l'aimera bien. C'est ça, il fait tout l'inverse. Au bout de 4 ans, les États-Unis, je vous le dis, seront revenus en 2012. Le mandat de Trump, il en restera rien.
Ah, la signature de Jean-Michel. À bientôt, Jean-Michel Apathy. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a publié un livre. Il s'intitule « L'ange et la bête ». Et on accueille son auteur. Bonjour, monsieur Le Maire.
Oui, bonjour, madame Julie. Bonjour, monsieur Paul Lassène. Bonjour, monsieur Béliard. Et bonjour à vos aimables sous-fifres. Écoutez, oui, il n'y a pas de débat. Comme la période est calme, on n'a pas grand-chose à faire. J'ai pris, oui, le temps d'écrire ce livre de 350 pages.
Vous dites pas grand-chose à faire en pleine pandémie mondiale, mais enfin, comment vous avez eu le temps d'écrire tout ça?
Mais madame Julie, c'est la méthode Cabrol, c'est une question d'organisation. Moi, je me lève très tôt, de 5h du matin à 9h, j'écris mes mémoires. Je suis tranquille. Ensuite, je me douche. Quelques pompes pour avoir ce corps magnifique. Vous pouvez tâter. Un yaourt et je file au... Oui, parce que c'est probiotique. Oui, monsieur Jimmy Mohamed. Je n'ai pas de gastro. Moi, j'ai droit au yaourt. Et je file au ministère où j'attaque ma journée à sauver la France de la crise. Et ensuite, de retour chez moi, j'écris mon deuxième livre. Car en juin, je vous le dis, je sors Bruno Le Maire, mes recettes minceurs pour l'été. Mais la journée n'est pas finie. Là, sur les coups de 3 heures, j'attaque une bonne nuit de 2 heures de sommeil.
Oui, bon, allez, c'est bon.
En phase avec Emmanuel Macron.
Alors, dans ce livre, vous dites, après le confinement, pendant mes vacances sur la côte basque, partout, des patrons de café, des restaurateurs, des salariés, des indépendants se rapprochaient de moi, vérifiaient qui j'étais en me fixant d'un regard soupçonneux qui semblait dire « Est-ce que c'est vraiment lui ?» Puis, encouragé par mon silence, il glissait « Merci pour ce que vous avez fait. »
Oui, tout à fait. Ça me touche.
Et encore,
je
sais,
Madame Julie, je ne raconte pas tout parce que je suis un homme pudique. C'est mère de famille qui m'a apporté aussi des gâteaux. Ces filles qui m'amenaient des bijoux sur des coussins. Ces hommes qui m'offraient de féconder leur femme.
Oh, dis donc.
Non, mais écoutez, je ne suis pas là pour me vanter, je le dis très modestement. Mais le fait, c'est vrai, d'avoir sauvé tous ces gens... Ça me rend fier, le fait de donner tout ce que je peux, comme je le peux. C'est, même si je n'ai fait que mon devoir, comme Jésus, vous savez.
Oui, c'est ça, oui, même également.
Comme Jésus.
Allez, on vous laisse, va. Merci, monsieur le maire. On n'en a pas encore reparlé, mais Jean-Marie Le Pen vient de se marier. À 92 ans, le fondateur du Front National a épousé religieusement Jeannie Le Pen. C'était le week-end dernier.
Oui, bonjour, madame Leclerc, et bonjour. Bonjour Métis Béliard, bonjour au Pimpin Laurent Cabrol, et bonjour docteur Mustapha Brad Pitt.
On l'avait pas eu encore celui-là.
Écoutez, je ne suis que joie ce matin, et d'où cette inspiration ludique, et je ne suis que papillon et fleur des champs. C'est l'amour, Mme Julie, il n'y a que ça de vrai. Vive la tendresse, n'est-ce pas?
Bah oui, bien sûr, on est tous d'accord, mais racontez-nous, comment ça s'est passé ce mariage?
Écoutez, le jouvenceau que je suis, enfin osé, oui, sauter le pas. Et j'ai mis du temps à me décider, car c'est un engagement fort, et car vous l'avez vous sans doute remarqué, je suis de naturel timide et réservé.
Oui.
Si, ne riez pas, derrière le menhir, plein d'assurance, il y a un petit garçon avec un cœur gros comme ça, et qui a peur, oui, de dire cette phrase, je t'aime. Nous sommes donc, Jeannie et moi, rentrés dans l'église. Le curé de fonction, n'est-ce pas, m'a demandé si je voulais épouser Jeannie. J'ai dit oui. Et là, le curé m'a dit, vous êtes désormais donc propriétaire de la mariée.
Propriétaire? C'est quoi ça? Mais elle donne pas son consentement, elle.
Consentement? Et pourquoi faire? Je voulais l'épouser, c'est désormais chose faite. Voilà, ensuite, nous avons fait une soirée festive, dansante, une soirée dansante et sur des marches militaires, n'est-ce pas? Et j'avais ma playlist. Et puis nous avons dîné d'une bonne choucroute qui a mis d'humeur quelques convives. Et nous avons fait remonter le taux de natalité. Voilà, quelle soirée! Je me sens comme si j'avais 20 ans. Ah là là, Shabada Bada, Shabada Bada.
Oui, allez, c'est bon.
Sur Europe 1. L'actualité, c'est bien sûr Emmanuel Macron qui a déclaré, nous l'avons repris, la France est une nation de 66 millions de procureurs. C'est très exagéré. S'il y avait vraiment, franchement, Julie, 66 millions de procureurs, est-ce que Patrick Balkany serait encore en train de se la couler douce chez lui à Levallois? Non. En tout cas, Emmanuel Macron en a assez qu'on le critique quand il fait des erreurs. Oui, mais nous, on est obligés sur Europe 1. Si on ne le critique jamais, on va se faire attaquer pour plagiat par BFM Télé.
Oh là.
Allez, l'autre info. Ça y est, vous l'avez.
Allô, Marco.
Allez, l'autre info, c'est... Ah oui, ben ça oui, on a tapé sur les copains. Allez, c'est Amazon qui pourrait racheter les droits de, vous l'avez entendu, de la Ligue 1. Un candidat surprenant.
Bah, ouais, salut. Bonjour, hein. Vous parlez la coulée douce, hein. J'arrive. Bonjour.
C'est Fabien Barthez, bonjour.
Ouais,
oh, mais moi. Ça fait plaisir de vous voir, ça fait tellement longtemps. Hein.
Tiens, c'est depuis 4h18 et j'ai pas parlé au micro, là. Oh.
Dites, on vous voit partout, là, pour défendre Michel Moulin à la présidence de la Fédération Française de Football. Vous prenez position sur tous les sujets et donc Amazon qui rachèterait les droits du foot. Et ça vous inspire quoi ?
Ouais, ben au contraire de Mathieu, là, je trouve pas que ce soit un candidat surprenant. Hein. Je vois moi sur Amazon, franchement, j'achète que des merdes, des tire-bouchons, des décapsuleurs, des trucs pour mettre sur la coque, là, des coquetiers, des embouts pour un arrosoir. Mais ben, la Ligue 1, elle a toute sa place parmi toutes ces merdes.
Oh, mais ça va pas, non.
Mais attends, t'as pas vu le match de l'OM cette semaine contre Lens? Et si Jeff Bezos là, le gars d'Amazon, le patron, là, il met plus de 5 euros sur les droits, il se fait arnaquer, hein, il se fait attouper. Hein. S'il ne sait pas quoi faire son oseille, moi, tiens, par exemple, j'ai mon beau-frère, il vend sa Kangoo d'occasion. Là. 300 000 bornes, il manque de feu et le pare-brise est fissuré. Mais à mon avis, c'est une meilleure affaire que la Ligue 1.
Oh, allez, c'est bon. Oh, allez, on vous laisse, Fabien. Mais à bientôt.
Oh,
hein,
putain,
on n'attend pas.
De venir, hein.
On n'attend pas 20 ans pour se parler.
Ouais, avec plaisir. Christiane, je les ai fait marrer sur Europe 1.
Emmanuel Macron était hier à Saclay. Le chef de l'État a détaillé un plan d'investissement de 1,8 milliard d'euros dans les technologies quantiques. Bonjour, monsieur le président.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà quelle vision d'avenir exaltante, la technologie quantique, madame Julie. Terminer les machines analogiques, c'est fini tout ça. Désormais, nous servirons des atouts mathématiques, nous en servirons pour l'intrication quantique,
oula,
et puis également pour la superposition non linéaire des particules dans l'espace non euclidien,
mon Dieu,
qui régit l'équation de Schrödinger dans une logique de von Neumann non probabiliste, bien sûr.
Bien sûr.
C'est fini le temps non ambigu, à condition bien sûr de que le spectre vectoriel soit présent.
Et
nous avons. Oula, un petit mouchoir, un Kleenex. Il y a M. Cabrol qui saigne du nez, là. Quelqu'un.
Bon, écoutez, reconnaissez que c'est pas simple à comprendre. Laurent, bah alors.
Ça chauffe de partout. Je suis pas peu de mettre un jingle, j'ai rien à dire. Je saigne juste. Quand je saigne, on met un jingle.
Alors, reconnaissez, M. le Président, que c'est pas simple à comprendre tout ça.
Oui, pardon, excusez-moi. Autant pour moi. Je sais, j'oublie à chaque fois, la pensée complexe, c'est pas votre truc.
Bon, non.
Tu le sais, Emmanuel, ce qui est facile pour toi n'est pas facile pour eux. Il faut que tu penses pédagogie. Pardon, excusez-moi, je me parlais à moi-même.
Ensuite, vous avez rencontré des étudiants, hein, toujours à Saclay. Les jeunes souffrent, hein, cette année.
Oui, je sais. Je comprends les causes de cette souffrance. J'ai écouté du Jules. Et j'ai vu des épisodes des Marseillais à Cancun, donc je comprends. Pauvre jeune.
Et puis, vous avez annoncé des repas à 1 euro pour tous les étudiants.
Voilà, exactement. Je le dis à toutes et tous, à chacun, à chacune, à celles et ceux, les étudiants et les étudiantes qui étudient, les élèves qui s'élèvent et les jeunes qui jeûnent.
C'est joli, hein,
ça. Ah oui, là, oui, c'est bien vu en plus.
Oui, je ne maîtrise pas que les chiffres,
très, très
mais aussi
bien.
La poésie. Après, bon, je les ai goûtés, ces repas à 1 euro. Vous allez voir, ça a le goût de trucs qui coûtent moins d'un euro. Hein, forcément. On ne vous vole pas sur la marchandise. Moi. Mais moi, à votre place, je crois que je préférerais continuer à ne pas manger, à jeûner, les jeunes.
Eh bien, merci, monsieur le président. Merci, à bientôt. Durant cette réunion, Emmanuel Macron en a profité pour fustiger les Français mécontents. À ses yeux, nous sommes donc une nation de 66 millions de procureurs. Et puis il a fustigé cette traque incessante de l'erreur. Bonjour Jean Castex.
Eh bien, nous aussi, voilà. Bonjour, Mme Julie, Monsieur Bégard, M. Cabron, M. Paul Larsène. Et bonjour à papy et mamie qui nous écoutent en cherchant quel sera le prochain reproche qu'ils pourront nous faire. Ah, ils commencent à nous courir sur le haricot vert, papy et mamie. Écoutez, non, franchement, là, je suis totalement en accord avec le président.
Emmanuel Macron qui a déclaré « Celui qui ne fait pas d'erreur, c'est celui qui ne cherche pas, qui ne fait rien. Pour lui, l'erreur est ce qui permet d'avancer. »
Mais exactement. L'erreur, la connerie, disons les mots, oui. Si je peux utiliser un langage trivial, c'est ce qui permet à chacun, à chacune de s'améliorer. Et je le dis au chef de l'État, des conneries, j'ai l'intention encore d'en faire beaucoup.
Dis donc, ça
promet. Tout le gouvernement est avec moi dans cette entreprise. Nous pouvons faire des petites conneries, des grosses conneries, des conneries d'énarques, des conneries de couillons de base. Et comme ça, progressivement, nous allons avancer. Nous allons progresser.
Il va être ravi, le président, de nous entendre. Merci Jean Castex. Après. Merci beaucoup. Jean Castex qui, hier, justement, recevait les syndicats pour parler de la réforme des retraites. Alors, du côté syndical, comment on envisage ce bras de fer avec le Premier ministre? On en parle avec notre représentant SNCF, Monsieur Régis.
Bonjour. Qui c'est qu'a dit « Ah, c'est M. Cabrol ?» C'est un usager. Bonjour Mathieu, bonjour à tout le wagon. Écoutez, nous on est ravis de l'avoir, Jean Castex, comme partenaire. Ah oui, on est ravis. Mais ravis. C'est le meilleur choix possible, Jean Castex. Castex, président. Ah oui, président, il faudrait qu'il soit formidable.
Alors, vous pensez qu'il va vous permettre de trouver un accord?
Non, pas du tout. Justement, je pense qu'il va faciliter le retour à la grève et ça... Ça fait quand même plaisir après un an de pandémie.
Ah d'accord, éloge de la grève.
Oh la grève, elle croit quoi la vedette? Je suis un artiste de la grève, moi, faut pas oublier, un vrai artiste. Et comme tous les artistes de la grève ou les artistes tout court, nous, la scène nous manque. Moi, ma scène, c'est la rue. Mon micro, c'est la pancarte. Mon costume, c'est le gilet sudrail. Tout ça, ça me manque. L'odeur des pneus qui brûlent. Le son des klaxons quand on bloque une route. Le parfum des merguez au petit matin.
Ah oui, on a tout là, ouais.
Ah, il connaît ça, Cabrol. La fraternité entre collègues quand on balance des cailloux sur les CRS. Un an que je suis privé de ça, la Julie. Mais hier, devant Jean Castex... J'ai compris qu'il allait faire capoter les négociations. Ah, c'est un mec bien, Jean Casquette. Castex, la vedette.
Allez, merci, monsieur Régis. Emmanuel Macron s'est donc penché sur les problèmes de la jeunesse, qui paye le prix fort des restrictions, perte de revenus, dépression. On a décidé d'en parler avec un jeune d'aujourd'hui. Bonjour, Kylian Mbappé.
Oui, bonjour, madame Julie.
Alors, c'est dur pour les jeunes de vivre dans un espace clos, d'affronter la perte de revenus. Vous le ressentez, ça, vous?
Oui, alors écoutez, je rappelle que la taille minimum d'un logement étudiant, c'est de 9 mètres carrés.
Oui.
Donc je ne ressens pas à mon domicile qui en fait 1850. Si, j'ai un aperçu quand je suis en sanitaire, mais c'est tout.
En sanitaire. Bon, bah d'accord. Autre chose, le football français est dans la tourmente. Hein. Pourtant, vous n'envisagez pas de quitter le PSG, vous?
Non, vous savez, j'ai trop l'amour du maillot, vous savez.
Vous êtes pourtant sollicité par le Real, par Manchester aussi.
Oui,
je crois.
Non, mais écoutez, madame, n'insistez pas, j'ai trop l'amour du maillot, je vous dis.
Ah, on parle de baisser tous les salaires de la Ligue 1 de 30%. Alors, ça.
Bon. Oui, alors certes, j'ai l'amour du maillot, mais si on m'enlève 30% du maillot, ça va plus. C'est pas une épilation non plus. Je vais pas jouer en crop top non plus.
Bon, merci. Kylian Mbappé, c'était peut-être pas le bon jeune pour parler des problèmes de la jeunesse. Allez, on finit avec du tennis et l'Open d'Australie. Bonjour Nelson Monfort. Alors, 72 joueurs sont en quarantaine car ils sont des cas contact. Mais le tournoi aura quand même lieu, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait, ma chère Julie, cher Mathieu. Effectivement, c'est un formidable espoir pour le tennis français. Si ce sont les 72 premiers mondiaux qui sont au tapis,
un Français va peut-être enfin, enfin gagner l'Open d'Australie.
Les 72 sont privés des 5 heures d'entraînement quotidien. Hein.
Voilà, les 72 meilleurs joueurs français ne peuvent pas s'entraîner des 5 heures d'entraînement quotidien. Tout à fait, il y a donc un coup à jouer, c'est une opportunité formidable. Bon, s'ils avaient été privés de raquettes, ça aurait été encore plus simple, mais n'exagérons pas.
Mais on n'a jamais gagné là-bas.
Jamais. Hein non, jamais, je peux vous dire que quand les tennismen français arrivent là-bas, les koalas et les kangourous se méfient. Il y a déjà eu des balles perdues, vous savez, ma chère Julie.
Les joueurs sont donc confinés dans leur chambre avec interdiction de sortir.
Oui, et comme les chambres sont attribuées en fonction du classement mondial, autant vous dire que Nadal et Federer et Djoko sont en dernière suite. Des suites qui sont toutes proches de la taille du central de Roland-Garros, ils peuvent carrément s'entraîner dans leur salle de bain, il faut carrément le savoir. Alors que les tennismans français sont en chambre simple, voire même en cagibi. Bien, je vous laisse, j'ai une interview exclusive avec Richard Gasquet qui m'accueille chez lui dans le local à poubelle de l'hôtel Formule 1 de la sortie 5 du périph' de Melbourne. Ah, les salauds d'Australiens, c'est tout ce qu'ils ont réussi à lui louer. À vous, Julie.